Heureux de donner maintenant la parole à Federico Albano Leoni, qui vient de l'université de Rome, la Sapienza, et qui va nous parler de Karl Bühler et la physionomie acoustique des mots, les occasions manquées de la phénoménologie. Vous avez la parole.
Merci, bonjour. Donc, avant tout, je voudrais vous prévenir que je ne suis ni un philosophe, ni psychologue. Je ne suis qu'un linguiste qui réfléchit sur les problèmes de la nature du signifiant phonique des langues, de sa représentation et de ses relations avec les signifiés. Donc, le but de ma relation ne sera pas celui de vous présenter une lecture philologique de la pensée de Bühler et de ses sources, ni celui de la reconstruction historiographique de sa collocation dans l'histoire des idées. De ce point de vue, je ne saurais ajouter grand-chose aux essais recueillis par Samen et Friedrich 2004, à la monographie de Persin Vialard, aux pages précieuses qui accompagnent l'édition française de la théorie du langage, et enfin aux relations qu'on vient d'écouter ici. Plutôt, partant de mon expérience, je voudrais vous proposer une lecture personnelle, parfois infidèle ou trop fidèle, des écrits de Bühler, pour essayer de montrer comment ces idées sur les langages auraient pu et pourraient encore contribuer à résoudre de nombreux problèmes de phonologie, ancienne et moderne, et problèmes du paradigme dit segmental. Et pour accomplir ma tâche, j'ai profité largement, comme vous le verrez, des travaux que je viens de citer. Mon point de départ sera le concept de phonème, couramment défini comme unité discrète, minimale, asémantique, immatérielle de la langue, siège de la distinction, siège de la pertinence distinctive phonologique. Cet objet, le phonème, constitue les pivots de la phonologie structurale européenne et américaine, aussi bien que l'objet des protéiformes phonologie générative, parfois sous le nom de segments. Ailleurs, dans des travaux récents, 2005, 2007, 2009, j'ai essayé de montrer la faiblesse des théories du phonème par des arguments que je ne peux pas présenter ici en détail et que je me borne donc à résumer brièvement. Des unités dépourvues de sens, telles que le phonème, ne peuvent pas être considérées comme des véritables unités linguistiques. C'est un principe saussurien auquel je ne saurais renoncer. La phonétique a montré, des travaux de l'abbé Rousselot et de suite, que la matière phonique est continue. Donc, le fait que la représentation discrète et segmentale imposée par les phonologies soit la seule possible est encore à démontrer. Le signal phonique est fragile et dramatiquement variable, dans une mesure telle qu'aucune conception d'espace structural et fonctionnel et aucune règle transformationnelle n'est en gré de maîtriser cette variabilité ou de la prévoir. Mill et Johnson Laird, parmi beaucoup d'autres, nous rappellent que not having an explicit perceptual theory means that we cannot be sure what the primitives of systems are. Mais dans la construction des phonologies, on ne tient jamais compte de la perception, quoique ailleurs on sache que la perception de la langue parlée ne se déroule pas de bas en haut, bottom up, du simple au complexe, mais plutôt dans la direction opposée et en conditions normales. Elle s'arrête au niveau de morphème, au niveau de des unités signifiantes. La pertinence distinctive que l'on prétend de trouver dans le couple minimal, tel que par exemple français « poire »,« boire », est une simplification cognitive, parce que le parcours herméneutique qui mène à l'identification d'un mot sont bien plus complexes. Et la perception d'un détail physique tel que la sonorité ou le manque de sonorité n'y contribue pas obligatoirement. Portions de matière phonique parfaitement intelligibles dans les discours où elles sont imbriquées devient souvent incompréhensible et inidentifiable lorsqu'on les soustrait à leur contexte. Enfin, la persistance du modèle phonologique segmental amène à une asymétrie irréductible entre les représentations des deux faces du signe. D'un côté, on est d'accord presque universellement que le processus de la signification et les entités du plan du contenu, à savoir le signifié, le sens, sont incalculables, vagues, indéterminés, déformables. De l'autre côté, les processus et les entités du plan de l'expression, le phonème, sont considérés discrètes, calculables, combinables selon des règles, certes. Aucun point de vue, ni celui de la psychologie cognitive, ni celui de la sémiotique, ni celui des théories de la perception et de la connaissance, est en gré, selon moi, de justifier cette asymétrie. Je suis donc de l'avis, qui n'est pas nécessairement partagé par tous mes confrères, que le phonème est non pas une entité primitive des langues, mais plutôt un outil métalinguistique, dont le fondement se trouve dans une tradition occidentale d'écriture alphabétique, qui pourtant ne représente pas la découverte du phonème, mais plutôt l'invention d'un système puissant de fixation de la langue. Ce ne sera pas un hasard si la phonologie segmentale ne s'est développée qu'au sein des cultures linguistiques et philosophiques à tradition alphabétique. On peut naturellement concevoir la représentation segmentale de la langue, donc l'alphabet, comme un intermédiaire entre nous et les choses, ou plus en général comme un chaîne médiateur entre la sensibilité et l'entendement, entre la sensation et la catégorie, pourvu qu'on sache que ce schème est historiquement déterminé, bien loin d'être transcendantal, et à mon avis, loin aussi d'être la manifestation de ce qu'on a appelé connaissance épilinguistique. Par conséquent, je suis aussi de l'avis que si une écriture alphabétique est en fait une théorie, les phonologies segmentales occidentales se trouvent paradoxalement dans la situation d'avoir comme objet non pas les faits dont on cherche à donner une interprétation et une représentation, mais plutôt une théorie et une représentation déjà données. Elles seraient donc des métathéories. Elles sont obligées de l'être dans la mesure où leur objet se révèle insaisissable hors de la représentation alphabétique. Je cite Saussure. Quand on supprime l'écriture par la pensée, celui qu'on prive de cette image sensible risque de ne plus apercevoir qu'une masse informe dont il ne sait que faire. C'est comme si l'on retirait à l'apprenti nageur sa ceinture de liège. D'ailleurs, dès l'apparition de Sound Pattern of English, une vingtaine de modèles phonologiques ont été proposés. Je ne saurais pas trouver un indice plus clair d'une malaise théorique. Bon, de ce que je viens de dire à propos du phonème et de la symétrie, j'ai une question. Étant donné que le langage et les langues sont phénomènes naturels et que la production et la perception de la matière phonique linguistique ont lieu au moyen d'outils psychophysiques pareils aux outils dont nous nous servons pour voir, toucher, humer et pour élaborer nos sensations, peut-on penser à une façon de produire, percevoir et représenter la langue parlée qui ne soit pas celle implicite dans le modèle segmental, telle que l'élaboration de la perception auditive ne soit pas si différente de l'élaboration cognitive d'autres modalités humaines de perception sensorielle, ainsi que l'on puisse dire de la perception de la langue ce que James et Gibson disaient de la perception tout court. C'est ma traduction. La perception est un flux, et la description que William James donnait du flux de la conscience vaut également pour le flux de la perception. Les passés discrets, tout comme les idées discrètes, sont des choses de fantaisie, comme les vallées de pique. Encore une façon, donc, telle que le son et l'essence soient ramenés à l'unité du signe, association non d'un homme et d'une chose, mais d'un signifiant et d'un signifié, et que l'objet linguistique minimal soit un tout phonique, pourvu de sens, saisi dans son être, dans les discours, dans une perspective dynamique, dialogique, sémantique et non sémiotique, selon la terminologie de Benveniste. Les écrits de Buller, surtout 1931 et 1934, 2009 dans la traduction française, suggère une possible réponse affirmative aux questions que je viens de poser. Buller, on le sait, participe activement au débat phonologique des années 30. Il salue avec enthousiasme la nouvelle phonologie pragoise, en souligne les prémices saussuriennes, admire les premiers essais de Trubetskoy, qu'il trouve d'une clarté géométrique comparable à celle de la table des éléments de Mendeley. Mais il est surtout intéressé au Merkmal, au trait distinctif phonologique de Trubetskoy, parce qu'il y trouve un exemple du principe sémiotique général de la abstractive relevance, de la pertinence abstractive. Et pourtant, l'unanimité entre Buller et les Pragois n'est pas parfaite, et les convergences sont peut-être moins fortes que les divergences, parmi lesquelles la plus évidente est à trouver dans la critique sévère à la psychologie herbartienne, d'où l'accuse de psychologisme adressée à Trubetskoy et même au signe saussurien, comme l'a remarqué Friedrich. Et en effet, il me semble que le dialogue entre Buller et Trubetskoy soit un dialogue de surface. Buller ne voyait pas ou ne pouvait pas voir ou peut-être feignait de ne pas voir la dérive abstraite et idéaliste du structuralisme naissant qui aurait bientôt abouti à une théorie linguistique tout à fait contraire à la sienne, bâtie à partir d'une lecture simpliste de Saussure sur une opposition dichotomique entre langue et parole, une théorie d'une langue sans locuteur, autonome par rapport au monde, où l'intersubjectivité restait un mystère. Trubetskoy, de son côté, n'avait aucun intérêt pour le cadre général que Buller était en train de proposer. Il me semble que pour le prince, toute psychologie aurait été bonne pourvu qu'on ne touchait pas à sa phonologie, comme on lit entre les lignes d'une lettre à Jacobson du 27 mai 1930 que je vous lis. Ces derniers temps viennent montrent de l'intérêt pour la phonologie. Le plus intéressé, le psychologue Karl Buller, qui est, si je ne me trompe pas, demandé à Chichevski, assez connu dans la psychologie actuelle. Sachant son intérêt pour la psychologie de la langue, je lui ai envoyé un tiré à part de mon article sur le système vocalique. Il s'est montré extrêmement enthousiaste, il en a parlé en détail pendant ses cours et un exposé lors d'une séance à la Société autrichienne de phonétique. Nous allons nous voir prochainement pour en discuter. Jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'échanger quelques brefs propos. Il soutient, voilà, qu'il faut changer les fondements psychologiques de ma théorie, car la psychologie associative est déjà vieillie. Je souligne, il assure que l'essentiel de la partie proprement linguistique n'en sera pas altéré. Je suis en train de lire son livre « Des crises de psychologie » pour comprendre de quoi il s'agit. Et en fait, le seul résultat visible de l'interaction entre Buller et les Pragois fut le progressif effacement de toute allusion à la psychologie associationniste, aussi bien qu'à la psychologie tout court, de la terminologie phonologique. Effacement que l'on peut aisément suivre les langues des écrits de Trubetskoy et de Jacobson. Et en effet, au cours de la décade pragoise, des thèses au principe de phonologie, le phonème se transforme et finalement n'étant plus ni un segment de matière, ni la représentation psychique d'une impression acoustique, ni une intention phonique, il devient un élément dont on ne connaît plus la nature, mais dont on l'affirme qu'il existe dans une structure et qu'il joue un rôle distinctif. Mais je reviens à Buller et aux réponses qu'il suggère à mes questions. Buller, qui connaît bien Goethe, Johann Jakob Engel, les débats physiognomoniques du XVIIIe siècle, et qui connaît bien la psychologie de la forme et les débats sur la perception visuelle, fait recours au concept et à la locution de physionomie acoustique des mots, parfois nommée image des mots, qui évoque justement une perspective holistique. Je vous soumets trois passages, choisis parmi d'autres à peu près de la même teneur, bien connus, célèbres, je dirais. Vous les avez lus déjà plusieurs fois, mais j'en ai besoin. En revanche, c'est Buller, au cours de ses recherches sur la pensée et de sa discussion sur la Gestalt, la psychologie a repensé de fond en comble le problème du rapport entre matière et forme. Il s'agit de rendre ces progrès féconds dans la théorie du langage. Puis, encore Buller, ce n'est pas la phonologie, mais la grammaire, ou, disons, la lexicologie, qui caractérise comme mot ou comme composant de mots des fragments déterminés du flux sonore. C'est ensuite la psychologie moderne qui attire avec force l'attention sur le fait qu'outre leur trait phonique, c'est-à-dire les phonèmes, ces structures, que sont les mots, sont aussi caractérisées phoniquement par des Gestaltqualitäten, des qualités de forme déterminées. Ou, pour redire les choses autrement, chaque mot a donc une physionomie acoustique qui n'est pas entièrement conditionnée par l'expression, mais qui contribue également à indiquer sa valeur de symbole et sa valence syntaxique. Dernier passage. Il s'agit du simple fait qu'aucun être humain n'est pratiquement en mesure d'opérer la distinction des milliers de structures qui seraient, comme les œufs de notre exemple, uniquement caractérisées par des combinaisons de notes, avec toute l'aisance, la vitesse et la fiabilité à laquelle parvient, avec les structures acoustiques des mots, tout partenaire normalement entraîné d'une communauté de langage. Il s'agit là d'une affirmation qui suggère que la physionomie acoustique des images acoustiques concourt très largement à leur discrimination. Et j'arrive, c'est un passage qui a été évoqué par Didier Samin ce matin, la phonologie contemporaine n'accomplit que la première étape de la tâche, consistant à construire une théorie systématique de la diacrise. Et elle devra se mettre à l'école de la Gestalt pour réaliser la seconde. Donc, Buller nous dit que la perception et l'identification des unités de la langue parlée ont lieu selon une modalité complexe où la composante gestaltique et physiognomonique, la même par laquelle nous reconnaissons des visages, des paysages, des objets, joue un rôle central. Cependant, on le sait, Buller est bien loin de refuser les phonèmes. Au contraire, je l'ai dit, vous le savez, il les accepte avec enthousiasme parce que, comme je viens de dire, il y voit la confirme concrète du principe de la pertinence abstractive, poussée jusqu'au segment minimum. Il ne suffit pas d'affirmer que deux visages, n'importe si phoniques ou visuels, sont différents, si l'on ne dit pas quel est le trait qui nous permet de les distinguer. Donc, le visage contient une frappe, comme l'a signalé Jeanette Friedrich, une nota, en un mot un signalement, et ce signalement serait le phonème. Mais le poids diacritique du phonème est inversement proportionnel à la qualité des conditions environnantes, sur lesquelles je reviendrai dans un moment, mais vous voyez ce que Buller écrit. Mais comment la langue allemande réussit-elle le tour de force de produire des uniformes phoniques différents pour chacun des quelques mille monosyllabes qui apparaissent dans son lexique? La phonologie explique que c'est une tâche que la langue effectue de la façon très simple, à l'aide de son système de signes simples, de notes phoniques ou phonèmes. On verra que, dans un moment, que Buller dit aussi des choses assez différentes. Buller précise donc que le mécanisme de l'identification physiognomonique s'intègre, selon le cas, avec celui de l'identification analytique, disons phonologique. Mais le point de départ est, selon moi, non pas le phonème, auquel il paie peut-être un tribut des traditions, mais une unité plus grande et surtout signifiante, disons le mot, dont la physionomie peut varier tout en restant la même. Le phonème est le signalement du mot, mais il est subordonné, représentant, pour user des termes modernes, une forme de connaissance des second degrés. Par Saint-Vialard commente cette double perspective. C'est pourquoi le concept de Gestalt n'est pas le seul principe régissant la description scientifique du langage. Il entre en concurrence avec un autre principe descriptif, le concept d'agrégat ou de totalité additive. Effectivement, il est remarquable que les catégories concurrentes de synthèse et d'agrégat interviennent tous deux dans la description de la structure du langage, qu'il s'agisse des unités lexicales ou de la phrase. Par exemple, le mot, unité signifiante résultant de la combinaison d'unités non signifiantes, que sont les phonèmes, relève à la fois de la gestalt du point de vue phonétique, et de l'agrégat sur le plan phonématique. Et la même duplicité a été observée par Funk 2004, par exemple. On pourrait peut-être se demander si cette juxtaposition est une nécessité théorique ou si elle n'est que la trace d'une question bien présente dans les épistémologies occidentales, jamais vraiment réglée, qui concerne la relation entre la perception d'un objet concret, dans notre cas une physionomie, au sens d'une gestalt phonique, d'un côté, et de l'autre côté, le processus analytique qui extrait de la représentation les notes, merkmale, dont elle est composée, celui-ci étant nécessaire dans la mesure où une représentation complètement déterminée n'est qu'un idéal asymptotique de la raison que l'empirie ne rejoindra jamais. Buhler garde ce double parcours de la connaissance et la nota, tout en étant subordonnée à la physionomie, reste comme indice de l'aspiration à une stratégie de connaissance linguistique catégorielle. Encore ? Non, pas encore. Je suis fermement convaincu que la phonologie de Buhler ne pourrait à nul prix se passer de la physionomie. Mais en même temps, je me demande si elle ne pourrait pas se passer sans dommage du phonème classique. Pour répondre à la question, il faut d'abord se demander si le phonème dont parle Trubetskoy, et après lui à peu près toutes les phonologies, et celui dont parle Buhler sont la même chose. La réponse est affirmative en surface et négative lorsque l'on y regarde de plus près, au moins pour trois raisons. La première a été soulignée par Jeanette Friedrich, 2004, il n'y a rien à ajouter. Le phonème de Trubetskoy, et après lui de toute la tradition structuraliste, étant une unité de la langue, est une unité fonctionnelle qui, une fois reconnue, mène une vie autonome. Once a phoneme, always a phoneme est la transposition phonologique du, si je ne me trompe pas, à Jacobson, du principe du droit ecclésiastique semel abbas, semper abbas. Lorsque, pour Buhler, ils sont plutôt être immanent à la matière, dont il est une frappe, un signalement qui pourtant vit dans la matière individuelle et non dans une structure. La deuxième raison est que pour Trubetskoy, en dépit de l'hommage superficiel à Buhler, implicite dans la mention de la silhouette gestalt, les phonèmes sont les seuls porteurs de la diacrise, et les mots se découpent en phonèmes sans résidus. Trubetskoy, traduction française de Quantino, les signifiants de la langue consistent en une quantité d'éléments dont l'essence réside en ce qu'ils se distinguent les uns des autres. Encore. En tant que silhouette, chaque mot contient toujours quelque chose de plus que la somme des termes ou de ses phonèmes, à savoir le principe d'unité qui joue ensemble cette suite de phonèmes et confère au mot son individualité. Mais, à la différence des divers phonèmes, ce principe d'unité ne peut être localisé dans le corps du mot. Et par conséquent, on peut dire que le corps du mot peut être analysé en phonèmes sans laisser des résidus, qu'il consiste en phonèmes. Par contre, pour Buhler, le phonème est en relation de complémentarité avec la gestalt à laquelle il semble, selon moi, parfois subordonné. Le phonème aurait donc une fonction auxiliaire. Il est dit très clairement dans une petite note que je cite. La fonction purement auxiliaire des phonèmes est une autre question et n'est pas prise en compte par cette dénomination. On trouve d'un côté des signaux globaux et de l'autre un symbolique articulé, voilà la différence décisive entre les systèmes. Cette différence reste inchangée que l'on construise les signes perceptibles avec ou sans l'aide des marques diacritiques élémentaires. En outre, et ça je trouve c'est très important, Buhler refuse toute conception de la langue parlée comme construction et du phonème comme une brique. L'élaboration d'une œuvre langagère ne traverse pas dans le système psychophysique d'un locuteur deux processus successifs, à la manière dont on construit une maison de briques, en l'occurrence en cuisant d'abord les éléments, puis en édifiant ensuite les murs à l'aide de ceux-ci. La phonétique, depuis suite, devrait avoir rendu impossible toute théorie postulant une construction par étapes. La troisième raison est peut-être plus subtile. Elle apparaît lorsqu'on se demande si un des caractères constitutifs et nécessaires du phonème classique, à savoir sa nature discrète et discontinue, héritage de la tradition classique de la lettre, de la littera, ou grec de la gramma, du stoikeion, est obligatoirement présent dans la théorie bullerienne. Je ne le trouve pas. Au contraire, dans une note au passage que je viens de citer, il dit clairement qu'une théorie linguistique fondée sur l'écriture alphabétique est mal fondée. Et maintenant, il reste le problème crucial de la pertinence abstractive de son siège. Je reviens au test de Buhler, justement signalé par sa main en 2004, qui en reconnaît l'importance. Buhler, là où il parle du champ environnant et de ce qui arrive à la matière phonique à condition troublée. Troublée, selon Buhler, et même à condition normale. Moi, j'ajouterai, je le dirai bientôt. Buhler dit, nous pouvons indiquer avec plus ou moins d'exactitude quels sont les éléments et les constituants de l'empreinte phonique qui subissent tout d'abord et principalement l'affaiblissement, l'effacement et la distorsion dans les conditions mentionnées. Ce sont les conditions d'une conversation téléphonique, si je me souviens bien. En termes acoustiques, ce sont les bruits. En termes phonétiques, ce sont les sons explosifs qui sont altérés avant tous les autres. Les sons vocaliques résistent mieux, et avec eux, liés à eux, certaines caractéristiques globales bien déterminées, des Gestaltqualitäten, des qualités de forme. Par exemple, la mélodie, puis l'empreinte rythmique, fort, faible, bref, long. Et enfin, les ondes d'acuité et de saturation des voyelles. C'est un fait que la réunion de ces caractères globaux suffit déjà souvent à remplir les exigences diacritiques réduites. Je voudrais souligner avec force la réunion de ces caractères globaux, parce qu'ils ont bien peu à faire avec les phonèmes et avec la localisation ponctuelle de la diacrise. Il n'y a aucun doute que la pertinence abstractive est la propriété qui nous permet de distinguer entre deux objets. Elle repose d'ailleurs sur les mêmes principes saussuriens selon lesquels dans une langue il n'y a que des différences, principes qu'on ne saurait pas mettre en discussion. Mais cela dit, la pertinence est-elle obligatoirement, nécessairement ponctuelle, c'est-à-dire localisée d'une façon irréversible dans une portion discrète de l'objet à reconnaître, dans notre cas dans un phonème donné, comme l'on pense d'habitude, et comme il semblerait d'après les exemples didactiques du type tâche, tiche, touche. Bon, en dépit de la doxologie phonologique, je n'en suis pas sûr. Et même Buhler ne semble pas le penser. D'ailleurs, il y a une bonne analogie avec la perception et la connaissance des visages humains qui conduit à envisager des solutions différentes. Évidemment, je suis en gré de distinguer entre deux visages. Et si on me demande après quel trait je le distingue, je réponds que je reconnais la couleur des cheveux ou des yeux ou la forme du nez ou la ligne des lèvres, etc. Ce sont des traits distinctifs, des signalements. Mais le problème est que si un des deux visages change de couleur de cheveux ou porte des lunettes à soleil ou injecte dans les lèvres une substance qui les gonfle, je ne cesse pas de le reconnaître et de le distinguer parce que la pertinence est diffuse et non ponctuelle. Elle appartient au tout et non à une partie. Et il en va de même avec les morceaux de la langue qu'on appelle mots ou syntagmes, car l'observation de la forme phonique des mots dans la langue parlée montre justement une diacrise fluctuante et diffuse. Il arrive à la forme phonique ce que Wittgenstein et Buhler disaient, je me réfère à Mulligan 2004, de l'ellipse. Wittgenstein se demandait, justement, à mon avis, si, au lieu de considérer la phrase elliptique comme une phrase abrégée, on ne pourrait pas considérer la phrase complète comme une phrase allongée. Il s'en va de même en phonologie. Le phonologue qui se trouve en phase de fluctuation que Buhler et moi, après lui, venons de rappeler, parle de formes réduites, défectueuses, et s'efforce vainement d'établir les règles de ces réductions et de les rendre ainsi prévisibles. Au lieu de reconnaître que les formes fluctuantes et souvent indéterminées de la langue parlée sont les formes normales, et que par contre les formes canoniques dites de citation sont des formes allongées, ou si l'on préfère, des formes appartenantes au royaume métalinguistique des lexicographes. Et alors, selon moi, la première des occasions manquées de la phonologie serait donc celle d'avoir renoncé à réfléchir sans préjugés sur la phénoménologie de la pertinence distinctive et donc sur le véritable statut du phonème. Mais, en plus, ce qui rend ontologiquement marginal le phonème chez Buhler, qui nous oblige à repenser profondément le fonctionnement de la diacrise, et qui est le soutien le plus important de l'idée de pertinence distinctive diffuse que je viens de proposer, est la puissance de la théorie des deux champs, par laquelle on introduit au cœur de l'activité langagière la présence centrale des locuteurs qui partagent un monde vécu et pensé. D'ailleurs, les historiens savent très bien que, comme l'a signalé De Palo en 2001, un embryon de cette perspective était déjà présent à Bréal. En fait, c'est Bréal qui domine toute la matière, c'est que nos langues, par une nécessité dont on verra les raisons, sont condamnées à un perpétuel manque de proportion entre les mots et la chose. L'expression est tantôt trop large, tantôt trop étroite. Nous ne nous apercevons pas de ce défaut de justesse, parce que l'expression, pour celui qui parle, se proportionne d'elle-même à la chose, grâce à l'ensemble des circonstances, grâce au lieu, au moment, à l'intention visible du discours, et parce que chez l'auditeur, qui est de moitié dans tout langage, l'attention à l'endroit de la pensée, sans s'arrêter à la portée littérale du mot, la restreint ou l'étend selon l'intention de celui qui parle. Mais je vous propose deux passages célèbres de Buller, que nous tous avons lus, que beaucoup d'entre vous ont commentés et qui ont été évoqués au cours de ce colloque. Voilà le premier, le concept des champs, que ce livre propose, est un produit de la psychologie moderne. Nous dégagerons en différenciant rigoureusement le champ déictique et le champ symbolique dans les langages. La théorie qui affirme l'existence non pas d'un, mais de deux champs dans les langages est nouvelle. Les deux facteurs en question sont constitutifs d'une connaissance accomplie, et cette thèse montre comment la pensée verbale les met simultanément en œuvre, de sorte qu'ils sont étonnamment intriqués, sans cesser d'être identifiables. Ce que Cassirer décrit, du moins dans le schéma de la représentation symbolique, comme deux stades du langage humain, forme une dualité de facteurs inhérente à tout phénomène langagier et de tout temps constitutif du langage dans sa globalité. Dans les médias, la théorie des deux champs postule que les différents modes de démonstration et des présentations sensibles sont une composante essentielle du langage naturel et ne lui sont pas plus étrangers que l'abstraction et l'appréhension conceptuelle du monde. Ceci constitue la quintessence de la théorie du langage qui est ici développée. Et la deuxième citation, autant célèbre, on comprend sans peine qu'un appareil symbolique, une fois aussi éloigné de la reproduction iconique et indirecte qu'elle est devenue la langue, parvienne à atteindre un haut degré d'universalité dans ses performances. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne perd pas totalement, par la même occasion, la capacité à restituer fidèlement les relations. Peut-être surestimons-nous l'affranchissement à l'égard du champ déictique. Peut-être sous-estimons-nous le fait que chaque représentation linguistique d'un état de choses est fondamentalement ouverte et requiert d'être complétée en puisant dans un savoir à propos de cet état de choses. Ou, ce qui revient au même, tout savoir ceci linguistiquement reçoit peut-être un complément d'une source qui, pour ne pas se déverser dans les canaux du système des symboles linguistiques, n'en produit pas moins un savoir authentique. Ce sont deux passages qui m'ont aidé beaucoup. Bon, je sais qu'il est devenu presque un lieu commun reconnaître que Buller a joué un rôle central et anticipateur dans un domaine des sciences du langage et des théories de la connaissance qui aboutira à la théorie des actes linguistiques avec Austin et Searle, à la pragmalinguistique avec Schlieben-Lang, à la sociologie de la conversation avec Goffman, à l'analyse de la conversation avec Sachs, Schlegloff et Jefferson, l'analyse du discours avec Brown et Yule, et qui produira des surprenantes analogies même avec la biologie de la cognition de Maturana et Varela. Mais on sait aussi bien que tous ces travaux sont dédiés à l'étude de la construction et de l'interprétation des sens, et non à l'étude de l'organisation des signifiants. Or, avant d'énoncer la deuxième occasion manquée de la phonologie, je voudrais dédier quelques mots à l'état des choses qu'on découvre en observant les relations entre la matière phonique, la dynamique des champs et la compréhension à condition normale. En fait, je développerai des suggestions de Buller en y ajoutant les données qu'il se plaignait de ne pas avoir à la page 88 de la traduction française. Le cadre général phonétique que j'ai déjà rappelé est bien connu par les phonéticiens au moins. Sons vocaliques, consonantiques ou entières syllabes altérées ou effacées, même ceux auxquels serait confiée la pertinence distinctive ou l'information morphologique. Cependant, la compréhension mutuelle en général n'est pas affectée. Je vous soumets un modèle d'expérience très simple, dont je souligne un détail important. La matière phonique observée à un niveau donné est toujours exactement la même que celle du niveau précédent. Le modèle que je vous présente maintenant est vide, parce que je n'ai que du matériel italien, je n'ai pas de matériel français, et alors je vous présente seulement la succession des étapes avec un bref commentaire. Première étape. Un observateur participant à une conservation spontanée la comprend en général sans problème. Un observateur qui écoute une conversation enregistrée la comprend s'il connaît les conditions environnantes dans lesquelles la conversation a eu lieu. Bon, ce sont les conditions normales. On parle, on écoute, on comprend en général. Deuxième étape. Une phrase bien formée, découpée de la conversation dont elle était partie, donc soustraite à son champ, disons, sympathique, est comprise, au moins dans son sens littéral, parfois avec quelques difficultés, toujours avec une sensation d'étrangeté, par des écouteurs ignorants de la conversation. Troisième étape. Un mot découpé de la phrase dont il est parti, dont soustrait à son champ, disons, sens sémantique, est reconnu avec difficulté et très souvent n'est pas reconnu du tout par des écouteurs ignorants de la phrase. Quatrième étape. Une syllabe découpée du mot dont elle était partie, donc soustraite en partie à son champ, disons, symphysique, n'est pas reconnue par des écouteurs ignorants du mot, sauf quand les conditions articulatoires sont particulièrement favorables, voire artificielles. Dernière étape, un son singulier découpé de la syllabe ou du mot dont il était parti, donc soustrait encore plus drastiquement à son champ symphysique, n'est reconnu par des écouteurs ignorants de la syllabe ou du mot pratiquement jamais s'il est une consonne et presque jamais s'il est une voyelle, sauf quand les conditions articulatoires sont exceptionnellement favorables, voire artificielles. Autrement dit, chacune des étapes de notre expérience montre, ou montrerait si on la faisait vraiment, les conséquences de l'affaiblissement d'un champ et des modifications dans les relations entre le tout et les parties. Et montre que seulement le tout, c'est-à-dire la synthèse des deux champs, est un objet linguistique et sémiotique bien formé, comme le montrent les différents degrés de validation des parts de l'écouteur aux différents niveaux de l'expérience. J'arrive donc à la deuxième des occasions manquées que j'introduis en citant un passage de Buller, bref mais illuminant. Les exigences de la diacrise sont réduites lorsque l'image acoustique d'un mot est impratiquement intégrée. Le passage, bien loin d'être isolé et reflétant une des idées de fond de la théorie du langage, est important et mérite d'être pris au sérieux, parce que l'on y trouve non seulement une conséquence phonologique à laquelle il serait utile de prêter plus d'attention, mais aussi le cadre théorique général où insérer et expliquer les données empiriques que je viens de vous évoquer. Le passage nous dit que la diacrise phonologique n'est pas une valeur absolue et constante, comme elle est censée être par les théories autonomistes, telles que le structuralisme ou le générativisme, dans lesquelles les manifestations phoniques sont réputées calculables à l'intérieur d'une structure ou à l'intérieur d'un ensemble de règles transformationnelles. En bref, la diacrise phonologique est en covariation avec d'autres valeurs, n'est pas la seule voie d'accès aux mots et à leur signification. Et le phonème n'est pas la condition nécessaire du fonctionnement phonique des langues. On pourrait ajouter que les expériences que je viens d'évoquer montrent qu'il n'est pas toujours vrai que c'est le signifiant qui amène au signifié, que nous reconnaissons un signifié après avoir reconnu un signifiant. Ça arrive parfois que c'est le contraire. Nous faisons des hypothèses des signifiants à partir d'une hypothèse des signifiés plausibles dans la situation où je me trouve à interagir. Bon, mais Buller se pousse encore plus loin et peut-être en contradiction avec soi-même arrive à affirmer que l'économie des langues ne réside pas dans la combinatoire d'un nombre limité d'éléments qui engendrerait un nombre illimité de mots, mais réside plutôt dans la capacité de différencier un nombre illimité de choses à travers la synergie des champs. Et voilà, c'est une longue citation. Dans un système à une classe de symboles communicatifs du type des signaux maritimes, à l'aide d'un stock de phonèmes diacritiquement opératoires, on pourrait mettre en circulation un nombre de signaux, conservons ce mot, suffisant en pratique. Le procédé est commode et aussi laconique que possible. Mais il est une chose dont il est strictement incapable, une chose à laquelle on parvient instantanément avec un système de champs, représenter de manière suffisamment différenciée et exacte une diversité illimitée au moyen d'un stock limité de conventions et par conséquent des structures langagères. Les langues humaines que nous connaissons aujourd'hui ont toute la prétention d'être de tels systèmes symboliques productifs, voire véritablement universels. Nous affirmons seulement que seul un système de champs peut, par principe, émettre cette prétention avec quelle chance de succès. Écrit ou non écrit, un code de symboles globaux doit présenter un caractère limité. En raison, tout simplement, de la capacité limitée de la mémoire humaine. En effet, si nous sommes tous capables de représenter par le langage constamment de nouvelles choses de manière intersubjectivement compréhensible, et cela pratiquement à l'infini, ce n'est pas que nous et les autres serions des acrobates de la mnémotechnie, mais parce que ces performances ne sont aucunement requises avec un système de champs de type de la langue. Et alors, la deuxième occasion manquée de la phonologie, étroitement liée à la première, serait donc celle de devoir renoncer à réfléchir sur les relations entre les modalités de construction et d'interprétation des sens et la quantité et qualité de la diacrise phonique nécessaire à l'intercompréhension. Ce n'est pas une question de détail, parce qu'à mon avis, c'est justement cette renonce qui a permis à Martinet, 1960-1970, de construire une théorie de la double articulation diamétralement opposée à la théorie des champs et contraire à ce que je trouve non seulement bien fondé théoriquement, mais aussi raisonnable, empiriquement. Voici une page de Martinet que je trouve d'une clarté extrême. Quand on pense à l'immense variété des besoins communicatifs de l'humanité, on s'aperçoit que le langage de l'homme ne pourrait se concevoir sans la double articulation. Essayons de nous imaginer dans quel embarras nous nous trouverions, aussi bien pour nous faire comprendre que pour comprendre autrui, si nous devions distinguer des milliers de grognements inarticulés, chacun correspondant à un de nos monomes, ce qui serait le cas si la seconde articulation nous était inconnue. Mais il n'y a plus que l'économie. Si la forme de chaque monème était un grognement inanalysable, il y aurait solidarité complète entre sens et forme vocale. Les sens exerceraient une influence directe sur la forme, si bien qu'à tout instant, tout usager de la langue serait tenté d'adapter sa prononciation aux nuances particulières de sens qu'il voudrait transmettre à son auditoire. En fin de compte, forme et sens seraient dans un perpétuel état d'instabilité. S'en seraient fait alors des unités de sens parfaitement identifiables, bien distinctes les unes des autres, telles que le sont en fait les monèmes de nos langues, grâce à leur forme stable et bien typée. Si séduisante et populaire qu'elle soit, cette théorie n'est au fond qu'une rationalisation de l'axiome de l'existence du phonème. Elle ne nous dit pas ce que sont les phonèmes, mais nous dit, par une argumentation à la saveur vaguement scolastique, que les phonèmes doivent exister. Les visages, donc, ne sont que des grognements. Pour ne pas dire, en commentant ce passage de Martinet, que si par forme, l'on entend forme phénoménique de la langue, la stabilité des formes n'est qu'un rêve. Cependant, ce point de vue est très répandu et il apparaît dans des milieux linguistiques très éloignés de Martinet, tels que, pour ne faire qu'un exemple, dans la phonologie dite de laboratoire, où les arguments de Pierre Rambert sont exactement les mêmes que ceux de Martinet, là où elle affirme que le modèle physiognomonique est incompatible avec les capacités humaines de mémoire. Seul Björn Lindblom, un grand phonéticien phonologue suédois, père de la théorie dite H et H, hyperarticulation, hyperarticulation, a reconnu l'existence d'une relation inverse entre la qualité du signal acoustique et les informations portées par l'environnement, même s'il semble parfois avoir gardé le primauté d'une forme phonique canonique abstraite et donc les conseils de réduction. Ce conservatisme de phonologie est d'autant plus surprenant parce que parmi les chercheurs qui étudient la perception de la parole, les modèles, disons, gestaltiques, par exemple la théorie des exemplaires, sont en train de devenir dominants, comme le montre une revue de ces études par Noël Nguyen, 2005. Donc, à mon avis, la théorie des champs nous permet de jeter un pont non seulement entre le monde et la construction et interprétation des sens, mais aussi entre le monde et l'organisation des signifiants, et nous permet de rétablir une symétrie cognitive entre les deux faces du signe. Les signifiants et les signifiés sont vagues et indéterminés, parce que c'est le monde qui les détermine tous les deux. Je voudrais conclure brièvement mon exposition par une formule qui puisse ramener à un même principe général, donc non seulement phonologique, les deux occasions manquées de la phonologie. Le principe général est celui de la faiblesse de l'axiome de la pauvreté du stimulus, dont Martinet et Chomsky représentent deux faces, un même principe qui aboutit à des propositions différentes. Pour Martinet, la pauvreté du stimulus consiste dans le fait que le locuteur-écouteur doit puiser toute connaissance linguistique du monde à l'intérieur du signal. Puisque le signal est fatalement insuffisant, il doit alors se structurer selon un principe combinatoire d'économie qui transforme les grognements en séquences linéaires de phonèmes, dans l'illusion que l'œuvre herméneutique soit achevée lors de l'identification de cette séquence. Pensez seulement à le chant du signe. Quand on l'a interprété phonologiquement, on n'a rien compris. Le travail est encore devant nous. Ou Galamant de la reine, à la tourmagne anime, Galamant de la reine, à la tourmagne anime. The poverty of the stimulus, pour vrai dire, n'aboutit pas chez Chomsky à une théorie phonologique au sens propre. Mais cet axiome est pour lui la prémisse à et la justification de la grammaire universelle. Les structures linguistiques, ne pouvant pas être bâties sur l'expérience, qui est pauvre, doivent être innées. Je n'entre pas dans cette question et me borne à dire que l'ambiguïté du célèbre exemple « Flying planes can be dangerous » pour lequel beaucoup d'encre a coulé aurait été réfutée aisément par n'importe quel théoricien de champ. Je conclus donc en avouant que je trouve franchement plus économique que la garantie des compréhensions mutuelles soit non seulement, non surtout, dans un code arbitraire symbolique partagé, mais aussi et surtout dans une connaissance et une représentation du monde partagé, parce que la connaissance linguistique de locuteur se développe simultanément à la connaissance du monde, dont elle est peut-être l'instrument le plus important. Et un aspect très positif du point de vue de Buller est que lorsque, pour les phonologies, la variabilité et l'indétermination des sons de la langue parlée sont sinon une maladie, certainement un accident de surface, un accident au sens grec du terme symbebekos, qui ne touche pas à l'être. Ici, les mêmes phénomènes sont des aspects de la physiologie des langues et caractère immanent de leur nature. Parce que, à bien regarder, la variabilité et fragilité des sons de la langue font partie des choses du monde perçu et donc sont des choses à interpréter. Et l'interprétation n'est pas affaire de la seule phonologie. Alors la question sera non pas de savoir si le signal est variable ou constant, intègre ou endommagé, mais de savoir qu'est-ce qu'il lui faut pour être compris. Voici, à mon avis, la tâche d'une phonologie moderne qui se veuille linguistique au sens propre du mot. Merci.
Merci à vous.